7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue aux voisins et aux voisines qui nous rejoignent. La France se met au régime low cost. On a vu les petits prix bas d'EasyJet, le succès de la Logan, la deuxième marque de Renault, les offres free aussi en téléphonie mobile. Et c'est aujourd'hui le tour de la SNCF avec des billets à moins de 25 euros pour des TGV éco. Bref, les attitudes des consommateurs sont bouleversées et ça devrait se poursuivre dans un contexte de crise et de hausse du chômage. Alors, est-ce que la qualité des produits, l'emploi et les salaires sont menacés? Jusqu'où ce système pourra-t-il aller? Sans être contre-productif, on poursuit le débat avec Emmanuel Combes, vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur d'économie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur du livre Le Low Cost aux éditions de La Découverte, et Daniel Rapoport, psychosociologue spécialiste de la consommation au cabinet DRC. Alors, est-ce que le low cost, c'est forcément moins cher, Emmanuel Combes?
Non, ça n'est pas forcément moins cher, et j'irai même plus loin par rapport à la question que posait un auditeur au début de l'émission. Le low cost n'est pas nécessairement lié à bas prix. C'est peu cher si vous réservez très longtemps à l'avance, mais comme toutes les compagnies aériennes, lorsque vous réservez tardivement, ça peut être très cher. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas qu'on vous vend dans le low cost un produit basique, épuré. Il va falloir ajouter les pétales. Les options, les fameuses options, et c'est les options qui sont souvent payantes. Alors, la différence, c'est entre celui qui sait lire les options à l'avance et celui qui n'était pas au courant que le bagage n'était pas inclus dans le trajet et qui découvre à l'aéroport qu'il doit payer souvent un bagage beaucoup plus cher que le prix du billet. Donc attention, low cost n'est pas toujours synonyme de prix bas. C'est d'ailleurs pas la définition du low cost. Low cost, c'est un produit simple. C'est souvent le cas. Ça n'est pas toujours le cas.
Alors, bonjour. On a justement au téléphone Babacar qui nous appelle. Bonjour Babacar.
Bonjour Sandrine.
Alors, vous nous appelez du Sénégal.
Oui, je vous appelle du Sénégal, oui.
Et alors, qu'est-ce que...
Oui, moi je disais qu'avec le low cost, les clients se font des illusions car la société de consommation ne fait jamais de cadeaux. En effet, le fait de croire qu'on dépense moins pour accéder à un bien ou un service multiplie nos besoins. Au Sénégal, une société de téléphonie fait des offres de packs soi-disant bas prix, ce qui pousse les consommateurs à augmenter leur communication sans s'en rendre compte. Il y a aussi les sociétés agroalimentaires qui jouent sur la qualité des composants sans les emballages et les noms des produits, le tout entretenu par une publicité mensongère en outrance pour appâter nos ménagères.
Donc vous n'avez pas confiance dans ce type de produit?
Non, moi je dis que dans tous les cas, c'est toujours les consommateurs qui sont abusés.
Alors, est-ce qu'il y a tromperie, Daniel Rapoport, tromperie sur la marchandise?
Alors, c'est vrai que la problématique de la confiance est vraiment très, très importante. C'est-à-dire que l'on peut ne pas avoir confiance dans des marques alimentaires, dans des vraies marques alimentaires. Et on l'a très bien vu avec chez nous, notre crise sanitaire de vache, cheval, etc. Et c'était vraiment des grandes marques. Mais il peut y avoir une confiance dans d'autres offres. Alors la problématique de la confiance est très importante. Et aujourd'hui, il faut savoir que la confiance... elle ne peut pas venir que des marques et que du discours des offreurs ou des opérateurs, qu'ils soient low cost ou pas. C'est une confiance de proximité. C'est-à-dire que ça soit via l'internet et nos réseaux, que ça soit via des copains ou des copines ou des voisins ou des voisines, il y a une confiance de proximité qui se tisse.
Mais est-ce que faire attends, baisser les coûts, ça agit sur la qualité quand
attends,
même?
Est-ce alors,
que
les produits sont plus modifiés? Il y a effectivement dans l'alimentaire aujourd'hui une recherche de risque zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter que l'on se mette dans le corps quelque chose qui peut être nocif. Ça veut dire que comme on ne voit pas ce qu'on mange, on est obligé de faire confiance de toute façon dans la fabrication. Donc il peut y avoir un bon produit qui soit low cost, comme un produit qui soit pas très bon et qui n'est pas low cost, mais tout ça c'est quelque chose qui est indépendant de nous. Et derrière le discours de ce monsieur,
Babacar,
on sent quand même que il y a toute une idée que le consommateur est à la base trompé, donc il y a une grande tromperie à la base, que le consommateur se fait avoir par rapport à des enjeux économiques qui ne sont pas pour le bien-être des consommateurs.
Emmanuel Combes.
Oui, pour répondre également à l'auditeur, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que le mot qualité, en réalité, est un terme trop générique. Il faut distinguer deux choses dans la qualité. Il y a ce que j'appelle la qualité nécessaire, sur laquelle on transige pas. Quand on mange, on veut pas tomber malade. Et quand on prend l'avion, on veut que l'avion, un, arrive à l'heure, deux, se casse pas la figure. Et puis, il y a la qualité accessoire. Le low cost, il vous dit quoi? Il vous dit, moi, je vous propose que la qualité nécessaire. Il y aura pas le café, il y aura pas le journal. Par contre, l'avion se cassera pas la figure. Et oui, il faut le savoir, les compagnies low cost sont les compagnies les plus sûres au monde. Donc, paradoxalement, par rapport à ce que nous dit notre auditeur, moi, je dirais plutôt l'inverse. J'ai l'impression que le low cost vous dit, écoutez, on vous a fait trop de promesses, trop de mensonges. Et en réalité, on n'a pas tenu vos promesses. Moi, je vais pas vous promettre grand chose. Mais vraiment pas grand chose. On arrivera à l'heure et l'avion sera sécure. Point barre. Et le consommateur, loin d'être trompé, se dit, bon, au moins, je ne me fais pas de fausses illusions. Je sais que dans un avion low cost, j'aurai pas le journal, j'aurai pas le café. Oui, mais il arrivera à l'heure, ça sera pas cher. Et l'avion sera sécure.
Et alors, comment ça change tout le secteur économique dans lequel se lance un produit low cost? Est-ce que ça stimule la concurrence? Qu'est-ce que vous avez observé?
Je pense que le low cost est extrêmement violent. Il a une petite part de marché, excepté l'aérien, mais il a une influence très grande. Parce qu'il brouille complètement les repères de prix. Mettez-vous à la place d'un opérateur installé, qui pratique, je dis n'importe quoi, 100 euros. Du jour au lendemain, on lui dit, moi, je fais la même chose que vous à 20 euros. Mettez-vous à la place du consommateur. Même s'il n'utilise pas le produit low cost, il va intégrer ce nouveau référentiel de prix. Et il va dire à son opérateur, je vais rester chez toi. Mais explique-moi pourquoi tu me fais payer 100 euros quelque chose que quelqu'un d'autre me vend 20 euros.
Il le met en demeure. C'est dans le monde de la téléphonie quand même.
Mais complètement, il le met en demeure de se justifier. Et là, il y a deux cas. Soit vous avez vraiment une valeur ajoutée, le luxe, le high-tech, et vos consommateurs resteront, soit ils s'aperçoivent que tout ça, c'était du vent, et vous n'avez d'autre choix que de baisser vos prix. Et qu'est-ce qu'on voit? Des grands opérateurs qui sont obligés de courir après les opérateurs.
Donc ça fait baisser les prix de tout le secteur,
tout
vous l'avez observé?
Tout à fait. Dans l'aérien, on estime que l'entrée des compagnies low cost ont fait baisser les prix dans les compagnies classiques de 20 à 30%. Le grand gagnant du low cost, c'est celui qui ne le prend pas.
Alors, par rapport à ça, moi je vais rajouter quand même trois idées peut-être qu'on n'a pas eu pendant notre conversation. C'est l'idée, aujourd'hui, quel est le juste prix? C'est-à-dire qu'on ne sait plus quel est le vrai prix et qu'on ne sait plus ce qu'il y a derrière le prix. Avec toutes les soldes, les promotions du matin au soir et de toutes les saisons mélangées, on n'est toujours pas dans un prix vrai, et on ne sait toujours pas quelle est la vérité du prix. Est-ce que c'est le travail derrière? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la façon dont les salariés seront traités? Donc tout ça, c'est ce que j'appelle les coulisses du prix, et qu'on aimerait bien avoir une transparence aussi par rapport à ça, pour savoir ce qu'on paye si on achète quelque chose, que ça soit en low cost ou en pas low cost. Le deuxième point que j'aimerais aborder, et c'est toujours un peu cette histoire de faire un pas de côté par rapport à la consommation, c'est que les gens ne supportent plus le gaspillage, ils supportent plus de consommer n'importe comment, par rapport à une sensibilité environnementale et écologique. Je ne dis pas que les gens consomment écologique maintenant parce que c'est peut-être trop cher et que les gens n'y croient ou ils n'y croient pas, mais il y a quand même, pour 90% des cas, des consommateurs, une sensibilité à l'écologie, au développement durable, à tout ce qui concerne la seconde vie des produits, l'usage dont vous parlez.
Mais le low cost n'arrive pas sur ce terrain-là.
Non, mais ça veut dire, si, mais le low cost travaille sur l'absence de gaspillage.
Une Logan, c'est une voiture simple, extrêmement fiable.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sophistication et
tout ce qui est simple tombe moins en panne.
Et la troisième chose, par rapport à la révolution que produit le low cost par rapport à la concurrence des grandes marques, c'est que maintenant, les grandes marques ont une nouvelle mission, ou ont une vraie mission, qui est de parler vrai, de parler juste, d'être dans la transparence, de faire rêver, d'innover, de pas être dans le suivisme, d'avoir du service plus, de se démarquer, et par rapport à ça, les marques, que ça soit les grandes enseignes ou les grandes marques, elles doivent penser autrement maintenant.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je vais prendre un exemple très concret, c'est qu'en fait, des personnes vont consommer le même produit low cost pour des motifs différents. Je vais prendre la voiture. Trois types de clients. Celui qui a une belle voiture pour le week-end et qui va acheter une Logan pour la semaine. C'est la deuxième voiture utilitaire. Il y a celui qui n'a pas les moyens, parce qu'il y a aussi un problème de revenu. Il a acheté avant des voitures d'occasion. Il se dit, maintenant, je peux m'acheter pour, je crois que c'est 8 500 euros, une voiture neuve. Et puis, il y a le troisième cas, celui qui a désacralisé la voiture, comme vous le disiez. La voiture, ça tombe en panne, ça coûte cher, ça pollue. Je vais prendre du simple. Et vous avez comme ça des personnes à fort revenu qui font pourtant le choix d'une voiture low cost. Donc vous voyez, le low cost, c'est bien plus que cette histoire de contraintes. Mais, c'est aussi cela. C'est des nouveaux modes de consommation qui sont en train de se mettre en place. Le low cost est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus général, ça, comme vous l'avez dit.
Oui, mais c'est marrant, c'est de voir à quel point ça contamine tous les secteurs, justement.
Parce que ça fait longtemps que la consommation a changé de visage.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'on est passé du bonheur donné par les objets ou par la possession des produits. On est complètement passé de ça à l'usage, c'est-à-dire à la vérité de l'usage, c'est-à-dire que ça me sert à quelque chose et en plus j'ai un certain plaisir à, parce qu'il faut toujours penser à l'hédonisme des consommateurs et à la volonté. Attendez, juste un truc, c'est que le fait que la consommation a changé de visage, ça veut dire que le consommateur n'est plus un tiroir-caisse et n'est plus un seul consommateur.
Moi, je serais plus nuancé. Je pense que le consommateur, il est schizophrène. Il a des biens pour lesquels qu'il a complètement désacralisé. Un avion aujourd'hui. Pardon, ça s'appelle un bus volant.
Ça
s'appelle un bus volant. C'est l'usage.
C'est l'utilité.
Mais il a encore ces biens qui font rêver. Il y a quand même des personnes dont je fais partie qui achètent des iPhones à 700 euros. Parce qu'on est, donc il est schizophrène. Je vais chez Lidl acheter mes produits premier prix, ce qui ne m'empêche pas d'aller ensuite m'acheter un parfum de marque, ce qui ne m'empêche pas d'aller éventuellement chez un petit commerçant. Je dirais même que le meilleur allié du luxe, c'est le low cost. Celui qui a un problème de contrainte de revenus, il va aller chez le low cost, il va économiser, avec ses quelques euros économisés, il va se payer un parfum, mais pas n'importe quel parfum, un parfum de luxe, mais pas n'importe quelle paire de lunettes, une lunette griffée. Le low cost et le luxe, ça n'est pas antinomique, ça va très bien ensemble.
Oui, mais il n'y a plus de tabou, parce que j'ai vu que même les pompes funèbres, maintenant, ont un service low cost. Donc ça nous poursuit jusque dans la tombe.
Oui. Je ne connaissais pas
ça. Vous connaissiez pas? Eh ben oui, il y a le service.
C'est-à-dire que, voilà, enfin bon, je ne veux pas aller beaucoup plus loin.
Mais on a aussi sur les services dentaires, par exemple. C'est vrai qu'on se plaint souvent de la prothèse, même la chirurgie esthétique aussi offre des services low cost.
Alors, on a constaté, avec cette paupérisation, enfin, avec cette baisse de pouvoir d'achat, avec cette baisse de salaire, etc., on a constaté que les restrictions se font au plan de l'alimentation, qui devient une variable d'ajustement, et au plan des soins de médecins et de dentisterie. Et les soins dentaires, ils en prennent un sacré coup, parce que franchement, donc ça veut dire que les chirurgiens, enfin que les dentistes low cost peuvent aider justement à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès.
Est-ce encore du low cost?
Alors, est-ce que c'est du low cost? J'ai vu que c'est une société qui s'appelle Dentexia, avec des centres de prothèses, hein, surtout 2 à 3 fois moins chers, mais d'ailleurs, la profession hurle au danger pour la sécurité publique.
Mais on revient sur la définition de départ. Pour moi, le low cost ne se définit pas par des prix bas, sinon tout est low cost. Un produit fabriqué en Chine, un jouet fabriqué en Chine serait low cost. Pour moi, il n'y a de low cost que si le produit que vous utilisez est vraiment simplifié. Si vous arrivez à me démontrer que ces soins dentaires sont entre guillemets simplifiés par rapport à des soins normaux, alors c'est du low cost, sinon c'est juste du prix bas. Alors comment font-ils pour avoir ces prix bas? Ça, je ne le sais pas. Mais attention à ne pas avoir une définition trop extensive du low cost.
Par exemple, pour la chirurgie esthétique que je ne connais pas, mais c'est vrai qu'il y a un chirurgien qui est très bon, enfin je pense, hein, parce que j'ai lu pas mal de choses, un chirurgien qui est très bon et qui sait faire exactement pareil que les autres chirurgiens, sauf que l'on rentre le matin, on sort le soir, donc il n'y a pas de nuit peut-être passée. Il y a quand même un service après travail ou après vente, enfin je ne sais pas.
Donc on peut dire que c'est du low cost en ce sens qu'on supprime l'accessoire.
On supprime l'accessoire.
Mais l'essentiel reste.
Et on supprime les fleurs et on supprime la petite musique, etc. Et peut-être que pour les pompes funèbres, c'est un peu pareil. On supprime.
On écoute FM Letty Rice in the Sun tout de suite.
Touching the sky, my day seems a bit brighter now. Taking a flight, I'm gliding and it feels so right. Don't tell me this is just a plan. In the scheme of things, I'm seeing it all clearer now. I won't be jaded, won't leave things fading. Golden mile of rising the sun. I won't be jaded, won't leave.
in the race. My blues have come to fade away in the scheme of things. I know they're sure to stay at bay.
On a l'habitude de dire que le low cost, c'est bon pour le consommateur, mais qu'est-ce qu'il en est pour le salarié, Emmanuel Combes,
quand
on travaille dans ces entreprises?
Ah, ça c'est la fameuse thèse, la question qu'on me pose depuis 5 ans. Mmh. Moi, je pense que c'est un petit peu un faux débat. Ou plutôt, il y a 2 débats. Il y a un premier débat, est-ce que ça détruit de l'emploi, le côté quantitatif? Oui, ça détruit de l'emploi, comme toutes les révolutions technologiques. De même que l'informatique a détruit des emplois de secrétaire, et de même que l'automobile a fait des chômeurs chez les cochers. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que ça détruit de l'emploi. Il y aura forcément des créations, des destructions de l'emploi. C'est l'économie. La vraie question, c'est comment on fait pour que celui qui a perdu son emploi en trouve très rapidement un autre. C'est ça l'enjeu. Donc, à mon avis, l'idée, ça tue l'emploi, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est plutôt la qualité de l'emploi. Est-ce que dans le low cost, il n'y a pas une intensification du travail, donc un stress au travail? Ça, c'est tout à fait exact. On l'a observé dans certaines entreprises low cost. Mais si j'ose dire, plutôt que de supprimer le low cost, mettons à niveau, si j'ose dire, notre législation pour faire en sorte que les compagnies low cost respectent, comme les autres compagnies, le droit du travail.
Donc c'est y a plus une pression problème. Aussi à la baisse sur les salaires.
Je réagirais quand même disant que l'intensification au niveau de la production et du travail s'est fait de manière globale, surtout les salariés qui ont été obligés de travailler pendant 35 heures, enfin et pas plus, ce qui fait qu'on a chanté quand même toutes les pauses café, etc. Ils ont été
obligés. Est-ce que c'est spécifique au low cost?
Non, c'est pas du tout.
Quand on voit ce qui est arrivé dans des très grandes entreprises nationales.
Et les suicides chez des marques que je ne citerai pas ici, mais il y en a quand même pas mal. Et il y en a toujours. Donc ça veut dire la qualité du travail est très essentielle. Et vous soulevez une idée qui est très très intéressante. C'est toute la reconsidération d'un salarié qui a perdu pour le remettre dans quelque chose, etc. Donc ça, c'est un point de vue global sur effectivement tout ce qui est derrière l'offre de consommation, tout ce qui est derrière le travail, et tout ça, les consommateurs qui sont aussi des salariés et aussi des citoyens voudraient bien le savoir et participer un peu à quelque chose qui ait du sens.
Oui, mais on voit quand même que, enfin, en termes de pouvoir d'achat, donc il y a aussi une pression sur la baisse des salaires, le pouvoir d'achat, donc on achète du low cost, on travaille dans du low cost. Est-ce qu'il n'y a pas un signe de paupérisation de la société?
Non, je crois pas.
Très vertueux.
Si je reviens sur la question des salaires, même chose que dans certaines compagnies low cost, les salaires soient faibles, on pourrait dire la même chose de compagnies non low cost. Et on peut trouver des contre-exemples de low cost dans lesquels les syndicats sont très présents. La plus grosse compagnie low cost au monde, Southwest Airlines, a un taux de syndicalisation de 90%. Et n'a pas de turnover. Donc le low cost peut parfois se faire au détriment du salarié, mais comme dans des entreprises non low cost. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité du low cost. Que le travail soit devenu plus intense, plus dur aujourd'hui, ça tout à fait. Il y a un point que j'aimerais soulever.
Est-ce qu'ils n'ont pas accéléré ce système? Enfin, cette
pas
est-ce
plus regarder le low cost a accéléré. Les questions de stress au travail ne sont pas spécifiques au low cost.
Non.
Et puis deuxième remarque. Par contre, je crois que le low cost a une spécificité de plus en plus dans les compagnies low cost. On est payé à la performance, et ça peut poser problème. Regardez dans l'aérien. Les hôtesses dans les compagnies low cost ont une part importante de leur salaire qui est variable. Alors on peut le voir de deux côtés. D'un côté, c'est bien, elles sont incitées, etc. Il peut y avoir aussi une incitation, un stress au travail beaucoup plus élevé. Donc je crois que c'est plutôt la question du mode de rémunération, le fait qu'on soit payé à la performance, en tout cas dans l'aérien, plutôt que des rémunérations fixes. Mais l'idée qui est de dire le low cost tire le droit du travail vers le bas, je crois que ça n'est pas spécifique au low cost. On retrouverait ça malheureusement dans beaucoup d'autres entreprises, y compris concurrentes des low cost.
Daniel Rapoport.
Alors moi, je voudrais juste y mettre un peu de pointe philosophico-psychologique, si je peux me permettre. C'est que derrière le consommateur, il y a quand même un être humain. Et que l'être humain, que ça soit un salarié ou un consommateur, il veut toujours être considéré, il veut toujours avoir une reconnaissance dans la consommation qui est un acte parmi un autre, c'est-à-dire il est dans l'éducation vis-à-vis de ses enfants, il est dans l'affectif, il est dans tout ce qu'on veut, il est aussi dans la consommation, il a juste envie qu'on ne le trompe pas, c'est-à-dire qu'on le reconnaisse comme une personne humaine, qu'on le respecte dans ses spécificités.
Mais Babacar se plaignait en disant que quand on baisse les prix, du coup, ça nous pousse à la consommation.
Alors
qu'est-ce
ça,
que vous en pensez
justement, je pense que on est dans, justement, c'est pas forcément une bonne chose, mais écoutez, on est quand même dans une société où on a envie aujourd'hui de consommer. Mais d'un autre côté, quand on va chez le coiffeur à 3 fois moins cher, est-ce qu'on y va 3 fois plus? Peut-être. Mais d'un autre côté, on fait plaisir 3 fois.
Qui est le juge qui doit mettre la bonne norme? Qui doit décider quelle est la bonne norme?
Chacun doit décider de sa propre norme.
J'irai plus loin, Daniel. Dans le low cost aérien, moi j'ose le dire ici, ça a démocratisé l'accès au transport aérien. Les Français d'origine immigrée qui auparavant partaient au pays avec la voiture pendant 4 jours, aujourd'hui peuvent retourner qui au Maroc, qui dans d'autres pays du Maghreb, beaucoup plus facilement. Il y a un côté aussi accès au marché. N'oublions pas que, comme le disait notre auditeur de manière plutôt négative, moi je le vois plutôt de manière positive, baisser un prix, c'est aussi donner accès au marché à des personnes qui n'y avaient pas accès.
Mais d'un autre côté, je pense que qu'il parlait aussi de ce nombre énorme de sollicitations, c'est-à-dire qu'on est débordé par un surchoids, par des sollicitations, et croisé avec la perception de ce que ça coûte, parce qu'il faut différencier le prix réel et le prix que l'on perçoit, il y a une sorte de peur, effectivement une peur et une méfiance par rapport à tout ce qu'on nous oblige quelque part, vu qu'on est des êtres de pulsion aussi.
Comment vous envisagez l'avenir, Emmanuel Combes? Est-ce que le low-cost va continuer à progresser dans l'économie?
Moi, j'y crois pas. J'ai jamais pensé que le low-cost dominerait. Par contre, il va avoir une influence énorme sur tous les autres acteurs. Il va les forcer à se renouveler, à se réinventer. Ceux qui se réinventeront n'auront pas à craindre le low-cost. Ils le loueront même. Et puis, ceux qui vendaient des fausses promesses ont beaucoup de soucis à se faire.
Mais est-ce que les low-cost sont en train de se réinventer aussi?
Les low-cost sont en train de s'embourgeoiser. Le grand défi aujourd'hui pour les compagnies aériennes low cost, c'est que ce sont des compagnies qui ciblent une clientèle business. Et oui, les businessmen prennent des low cost, y compris en Europe. Et on le voit très bien, une très grande compagnie qui s'appelle EasyJet vient de signer un accord avec Emirates. Donc le low cost aujourd'hui, c'est au fond, est-ce qu'ils sont nés low cost? Est-ce qu'ils vont le rester?
Donc tout leur enjeu, c'est de monter en gamme aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'on n'est plus maintenant, enfin il me semble que l'on ne va plus être dans le high cost et le low cost, mais on va être dans une sorte, comme avant, de rapprochement, c'est-à-dire non pas l'histoire de la carafe, mais plutôt l'histoire du sablier, voilà, c'est ça. Et enfin, pas l'histoire du sablier, au contraire, où il y a le high cost et le low cost qui sont vraiment forts, mais plutôt l'histoire de la carafe. Bon, et que par rapport à ça, il faut effectivement que les marques d'une part et que le low cost d'autre part fassent des progrès, enfin par rapport à leurs offres et tout. Mais d'un autre côté, les hard discounters deviennent aussi des soft discounters. C'est-à-dire qu'on a constaté aussi que quand il y a une absence totale de marque, donc d'envie de rêver et de monter un peu en gamme dans notre estime personnelle aussi, c'est-à-dire de pas troquer du Nutella ou du Coca pour des sous-marques si elles existent, il y aura toujours la nécessité d'avoir des marques à l'intérieur de hard discounter.
Pour revenir à votre question sur la concurrence, je pense que la concurrence, comme le disait Madal, va devenir de plus en plus dure, puisque d'un côté, les compagnies classiques dans l'aérien ont tendance à se
rapprocher
du low cost. Et les compagnies low cost montent en gamme, ils vont se ressembler de plus en plus.
Dans
plus
un
on se ressemble, plus la concurrence par les prix va être dure. Donc par une sorte de ruse de la raison, les deux vont devenir de plus en plus concurrents, à tel point peut-être qu'un jour on se demandera, mais est-ce qu'on peut encore différencier dans l'aérien une compagnie low cost, une compagnie non low cost?
Ce qu'il faut dire, que le prochain enjeu, c'est de travailler sur l'image prix, sur l'image du prix. Je pense que c'est vraiment l'important maintenant.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière un prix? Un prix n'a pas de sens en soi.
Exactement.
Est-ce que 50 euros c'est cher? Ça ne veut rien dire, tout
ça
dépend de ce qu'il
dire.
Y a en face. S'il y a la sécurité, la ponctualité, pourquoi pas?
Voilà. Ben, merci beaucoup pour tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct. Alors, je rappelle Daniel Rapoport, psychosociologue spécialiste de la consommation au cabinet DRC. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur d'économie à l'université Paris 1 à Panthéon-Sorbonne et auteur du livre aussi Le Low Cost aux éditions de La Découverte. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une approche très économique pour tout savoir sur le modèle économique. J'espère. Merci. Merci aussi à toute la fine équipe aujourd'hui, Cécile Lavolo, Véronique Durand et derrière la vitre, Romain Dubrac et Sandrine Strachram. Merci aussi pour vos appels, votre fidélité. On vous retrouve demain. Et alors demain, on change de tout au tout. Demain, avec le conclave qui se réunit à Rome pour élire le 66e pape, et on va se poser la question du rôle de l'Église dans la société civile. Santé, éducation, est-ce bien sa mission? On attendait maintenant vos questions, les voisins, les voisines, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Ou vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook.